Votre journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
L'ouverture en Belgique ce matin du procès de Mehdi Nemmouche.
Le djihadiste est accusé de l'attentat du musée juif de Bruxelles en 2014. Il y avait eu 4 morts un an avant la vague sanglante qui allait frapper Paris. Les entreprises débloquent 9 milliards d'euros pour le logement des salariés modestes. Il sera appliqué dans un mois. Dans l'actualité également, les ventes de cigarettes en chute libre. La hausse des prix est passée par là. Et puis on reviendra évidemment sur la défaite surprise du PSG éliminé de la Coupe de la Ligue par Guingamp, 2-1.
Dans 13 minutes, le surf de l'info. Bonjour Cyprien Sini.
Bonjour à tous.
Ce matin, vous surfez avec l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy, Thierry Mariani.
Adieu les Républicains, salut le Rassemblement National. Pourtant, il n'a pas toujours été d'accord.
De météo d'ici 7h.
Le Mistral ne cesse de souffler, mais il dégagera le ciel de Bolène en Vaucluse. Il y est prévu 4 degrés cet après-midi.
RTL Matin.
Mehdi Nemmouche face à la justice.
Le Français de 33 ans est accusé d'avoir tué 4 personnes au musée juif de Bruxelles en mai 2014. Il est considéré comme le premier terroriste de l'État islamique en Europe. Il avait longuement séjourné en Syrie. Il nie être l'auteur de l'attentat. Il est jugé à partir d'aujourd'hui à Bruxelles avec un complice présumé. Le musée a rouvert bien sûr depuis, mais il reste marqué par l'attentat. Sur place, Caroline Haine.
Dès l'entrée dans le musée, ce qui frappe au premier coup d'œil, c'est une plaque commémorative.
Ici, le 24 mai 2014, notre institution a fait l'objet d'un attentat meurtrier.
Une plaque pour ne pas oublier, même si pour Chouna, c'est impossible. La porte-parole du musée juif se souvient très bien de ce jour. Le matin de l'attaque, elle téléphone à Alexandre, son assistant. Il fera partie des 4 victimes.
Je l'ai informé le matin que je ne viendrai pas. Et j'ai été prévenue en début d'après-midi par une amie quand elle a dit « on a tiré dans le musée ». J'arrêtais pas de me répéter, Alexandre répond et je disais, pourvu qu'il ait fermé la porte.
Aujourd'hui, la sécurisation du bâtiment est largement renforcée. Un sas de sécurité, 3 portes verrouillées avant de pouvoir entrer. L'aspect physique du musée a changé, mais pas seulement. Depuis l'attentat, le sujet des expositions a également évolué. Pascal Fallec à la DEF est la directrice du musée.
L'idée est véritablement de présenter le judaïsme dans ce qu'il a d'universel et de commun avec les autres. On a eu une exposition, par exemple, qui a visé à montrer les points communs entre communauté juive et musulmane.
Et le prochain grand projet est la démolition, reconstruction du bâtiment, avec toujours cette volonté de mettre en avant les points communs entre toutes les cultures.
Caroline N pour Bruxelles, pour RTL à Bruxelles. Le boxeur qui avait blessé des gendarmes à Paris restera en prison jusqu'à son procès le 13 février. C'est lui qui a demandé un délai pour préparer sa défense. Il passait hier en comparution immédiate. Le juge a donc ordonné son placement en détention provisoire. C'est la réponse des entreprises au gilet jaune. Un plan logement à 9 milliards d'euros pour les salariés modestes. Il sera présenté aujourd'hui, c'est une révélation de nos confrères de l'Opinion. Plan mis sur pied par l'organisme Action Logement qui inclut les partenaires sociaux, dont le MEDEF. Action Logement représente 20% du parc social. L'originalité de ce plan, c'est qu'il sera financé en partie par le privé puisque l'argent sera emprunté sur les marchés et le plan sera mis en œuvre dès le mois prochain. Les bénéficiaires pourront toucher par exemple jusqu'à 20 000 euros pour faire des travaux d'isolation thermique.
RTL 6h33. Minutes, le dernier jour du procès Barbarin.
L'archevêque de Lyon, bousculé hier par les avocats des parties civiles, bousculé mais soulagé, puisque la procureure n'a requis contre lui aucune condamnation, les faits étant prescrits. « Vous êtes un menteur », lui a lancé l'avocat d'une des victimes du père Prénat, le prêtre pédophile que le cardinal est accusé d'avoir protégé. Il y a 9 plaignants dans ce procès. L'un d'eux était absent jusqu'à hier. Il a tenu à affronter au moins une fois l'homme d'église. Récit de Frédéric Perruche.
C'est la 9e victime. Celui qui devait occuper la 9e chaise aux côtés des autres plaignants a finalement trouvé la force d'assister au débat hier après-midi, en larmes parfois, pour écouter son avocate plaider. Didier, 50 ans aujourd'hui, victime du père Prénat quand il avait 10 ans, ne se sentait pas capable d'apparaître à l'audience. La souffrance toujours présente, cette difficulté à briser le silence. Il s'est d'abord mêlé au public discrètement, puis il a prévenu sa compagne qu'il était au tribunal. Et pour la première fois, après 11 ans de vie commune, il lui a raconté au téléphone sa tragique histoire et les agressions qu'il avait subies. Enfant. Alors, pour lui et pour soutenir les autres dans ce combat contre la pédophilie dans l'église qui les unit depuis 3 ans maintenant, il s'est assis à leur côté face au magistrat, à quelques mètres du cardinal Barbarin. Le début d'une libération, espère son avocat.
Frédéric Perruche.
Et à 7h20, l'invité d'Yves Calvi sera le père Vignon. Qui est ce prêtre à l'origine d'une pétition pour demander la démission du cardinal Barbarin? Eh bien, on le retrouvera tout à l'heure à 7h20 sur RTL.
On en vient à ce chiffre assez spectaculaire. On le disait en titre, les ventes de cigarettes ont chuté de près de 10% l'an dernier en France. La hausse des prix est évidemment pour quelque chose, mais il n'y a pas que ça. Vous avez enquêté à Toulouse, Patrick Tégéraud.
Alors le vapotage a peut-être fait quelques nouveaux adeptes, mais il y a surtout la volonté de diminuer, voire d'arrêter. Charles est passé de 2 à 1 paquet par jour, il s'est mis au sport.
Meilleur pour la santé.
C'est pas parce que c'est devenu trop cher?
Bon, en partie ouais, mais bon, quand on est accro... On...
Les accros trouvent toujours moyen d'acheter des cigarettes à bon prix.
Les gens disent, excuse-moi, mais je peux plus venir chez toi, mais je continue à fumer.
Gérard Vidal est buraliste à Toulouse.
Il y a la contrebande, il y a également le consommateur qui va sur les ventes transfrontalières. Quand vous êtes adossé à des régions comme l'Andorre, où le prix du paquet est à 3 euros, vous voyez un peu la différence qu'il y a.
Winston a déjà acheté des cigarettes à la sauvette, il le reconnaît.
J'ai déjà essayé, comme tout le monde, hein, mais à la rue, les cigarettes, c'est pas le même goût, quoi. Enfin, ça sent que c'est des clopes trafiquées.
Malgré tout, selon les buralistes, le trafic de cigarettes s'intensifie. Plus du quart des cigarettes consommées à Toulouse viennent de l'étranger et l'augmentation du paquet de 50 centimes en mars prochain risque de renforcer encore cette tendance.
Patrick Tégéro,
Point.com. RTL Matin,
Julien Célier.
Allez, très bon réveil, la suite de votre journal à 6h38 et donc le foot avec la surprise de ce début d'année.
Le PSG battu par Guingamp est donc éliminé de la Coupe de la Ligue et tout ça s'est passé en plus au Parc des Princes. Les Bretons l'ont emporté 2-1 grâce à 3 pénaltys, un exploit pour Guingamp qui vient donc de mettre fin à 44 victoires consécutives des Parisiens en Coupe Nationale. Le PSG quintuple vainqueur de la Coupe de la Ligue, groggy hier soir à l'image de Marquinhos.
Il faut qu'on rentre sur le terrain avec la fin de vouloir gagner. Et ça passait pas comme ça aujourd'hui. On sait, tout le monde est conscient qu'on peut faire beaucoup mieux. Le maillot, il gagne pas les matchs. Le nom, il gagne pas des matchs. On a vu ça aujourd'hui, c'était un coup de jour. Mais parce qu'on n'a pas perdu qu'un match, on a perdu une opportunité de gagner un titre. Et ça nous a fait mal et ça va nous servir pour la suite.
Marquinhos avec Philippe Sanfourche. Guingamp rejoint dans le dernier carré Strasbourg, Bordeaux et Monaco. Monaco qualifié au tir au but face à Rennes. Le tirage au sort des demi-finales a lieu ce soir.
Allez, RTL 6h39. On part aux États-Unis. Donald Trump se rend aujourd'hui à la frontière avec le Mexique.
La même où il veut construire son mur. Sujet de crispation avec la majorité démocrate à la Chambre des représentants. Et si les États-Unis mettaient plutôt en place un mur virtuel pour surveiller les passages de clandestins. C'est l'idée d'une petite entreprise qui présente en ce moment son projet à Las Vegas au Salon des Nouvelles Technologies, Christophe Decroix.
Oui, à en croire cette start-up avec ce mur virtuel, pas besoin de barrières physiques qui gâchent le paysage et perturbent l'écosystème, à commencer par les animaux sauvages qui n'aiment pas être arrêtés par des frontières. La jeune société utilise un système laser qui mesure la distance, la taille et la forme des objets ou des organismes vivants, humains ou animaux. Et ça fonctionne jour et nuit, quel que soit le temps, se félicite le PDG. Tout intrus serait donc ainsi immédiatement repéré et sa position GPS envoyée aussitôt aux forces de l'ordre qui n'auraient plus qu'à dépêcher sur place une patrouille pour l'interpeller. Autre énorme avantage, toujours à en croire cette start-up qui fait actuellement des essais, ce système est beaucoup moins cher qu'un mur en dur. Trump réclame plus de 5,5 milliards pour le construire sur 377 km. Le mur virtuel, lui, ne coûterait qu'1,5 milliard pour couvrir les 3200 km de frontières entre les États-Unis et le Mexique. Mais au fond, la décision est plus politique que technique.
Christophe Decroix, on finit par cette dernière information, toujours à l'étranger, en République démocratique du Congo. C'est suffisamment rare pour être signalé. C'est un candidat de l'opposition qui l'emporte à la présidentielle, Félix Tshisekedi. Les résultats ont été annoncés cette nuit par la commission électorale indépendante. Il arrive en tête de ce scrutin à un seul tour, qui avait été reporté 3 fois déjà depuis 2016. Il succédera donc, normalement, à Joseph Kabila, au pouvoir depuis 2006.